Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 100 ans, le 7 mai, un paquebot transatlantique anglais, armé par la Cunard, était torpillé par un sous-marin allemand. Franck Ferrand marque aujourd'hui ce terrible anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Nous avons quelques jours de retard, hein, mais c'est pas si vieux que ça le 7 mai, et c'est vrai que ce centenaire ne pouvait passer inaperçu. Alors, c'est vrai que déjà j'ai eu l'occasion au moins deux fois de vous raconter ce naufrage qui devait faire des centaines de victimes et dont beaucoup d'Américains, il y avait pas mal d'Américains à bord, et c'est ce qui a favorisé sans doute l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Si j'y reviens en cette période de centenaire, c'est qu'un ouvrage de Claude Mosset apporte sur le sujet un éclairage nouveau. Claude Mosset est mon invité, il est venu spécialement de très loin.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stéphane sur l'origine du terme sage-femme.
Une occasion pour moi de revenir sur la fascinante histoire de l'obstétrique. Pour le moment, je vous propose d'aller 100 ans en arrière, en plein cœur de la guerre sous-marine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Évidemment, on ne parle plus trop du centenaire de la Première Guerre mondiale. On en a tellement parlé en 2014, mais dites-vous, puisque on avait vécu à 100 ans d'écart, on a revécu, si je puis dire, l'entrée de l'Europe et bientôt du monde dans la guerre. On est à ce moment-là, au printemps 1915, on est à la 40e semaine d'un conflit total sur terre. Bien entendu, je n'y reviens même pas, mais aussi sur mer, où les combats sont sans doute et souvent plus insidieux. Les Allemands, pour riposter au blocus que leur font subir les Alliés, pour tenter de desserrer l'étau autour de leur côte, se sont lancés dans une incroyable guerre sous-marine dont le but affiché est d'envoyer par le fond le plus possible de navires anglais et assimilés. C'est une invention récente. À l'époque, les sous-marins. D'ailleurs, ces sous-marins allemands, les fameux U-boats, ne sont pas vraiment des sous-marins de plongée comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Disons plutôt que ce sont des petits bâtiments submersibles qui ne sondent pas très profond et qui attaquent le plus souvent en lançant leurs torpilles à fleur d'eau. C'est de cela que va périr le Lusitania. Enfin, c'est en tout cas ce qui amorce les choses. Nous sommes à New York. Le 1er mai 1915, il est presque midi, il y a un petit vent frais sur le quai 54 à hauteur de la 42e rue. Or, ce que nous avons sous les yeux et qui nous écrase de sa silhouette fantastique, c'est le roi des océans, le lévrier des mers, comme l'appelle la presse, le fleuron de la marine marchande britannique, j'ai nommé Sa Majesté Lusitania. Le plus grand, le plus beau, le plus luxueux des palaces flottants de la belle époque. 250 mètres de long pour 26 de large. Alors aujourd'hui, c'est relativement petit par rapport aux gros navires de croisière, mais c'est un géant pour l'époque. 30 000 tonnes à Liverpool, qui est son port d'ancrage. Les gens pleurent de fierté quand ils parlent de ce navire. À tout seigneur, tout honneur, Lusitania est le paquebot le plus rapide du monde, avec des pointes à plus de 26 nœuds. C'est vrai que depuis la guerre, on a condamné 4 chaudières sur 16 pour des raisons d'économie, ce qui fait qu'il va bien sûr nettement moins vite. Ça paraît secondaire ça, mais ça va être primordial dans ce qui nous intéresse. Enfin, pour l'instant, tout va bien. À midi pile, on a largué les amarres et les 10 remorqueurs, je dis bien les 10 remorqueurs nécessaires à la manœuvre, ont décollé le monstre du quai. À bord, 1959 personnes, en comptant l'équipage qui envoie, bien sûr, vous savez comment ça se passe, hein, envoie des baisers d'au revoir, croit-il, aux personnes restées sur le quai. En l'occurrence, ce sont des baisers d'adieu. La plupart des passagers sont des Britanniques, mais il y a pas mal de Canadiens et il y a un certain nombre, je dis bien un certain nombre d'Américains, parce que tous les historiens ne sont pas d'accord. Environ, on va dire, entre 160 et 180 Américains. C'est très important, puisque à l'époque, la guerre est encore une affaire exclusivement ou presque exclusivement européenne, si l'on compte les empires coloniaux. Les Américains sont étrangers pour l'instant à cette guerre. Alors je ne vous cache pas que sur le pont des premières classes, on est plutôt tendu. Il y a du beau monde, comme toujours, hein. Il y a un journaliste célèbre, une actrice en vogue, un grand homme de théâtre, Karl Frohman, le roi du champagne. Il y a même Alfred Vanderbilt, le jeune milliardaire qui est la coqueluche des Américaines. S'ils sont inquiets tous ces gens, c'est parce qu'ils sont un petit peu mieux renseignés que d'autres passagers et qu'un entrefilet, discret mais pas sympathique du tout, a circulé dans la presse. Voilà ce qu'on a pu lire. a été publié à l'initiative de la communauté allemande de New York. Avis aux voyageurs qui ont l'intention de traverser l'Atlantique. Il est rappelé que les navires battant pavillon de la Grande-Bretagne ou de ses alliés s'exposent à être détruits dans les eaux qui entourent la Grande-Bretagne. Les voyageurs qui empruntent ces navires le font à leurs risques et périls et c'est signé Ambassade impériale allemande Washington le 22 avril 1915. Vous avouez que c'est le genre de publicité dont on se serait passé, évidemment. Au moment du départ, certains, évidemment, se sentent nerveux. Entre nous, je les comprends. Moi, je serais comme eux. Lusitania salue d'un grand coup de corne la statue de la liberté. Et puis, ça y est, il aborde déjà l'océan. Or, au lieu de rentrer tranquillement dans les salons, nombreux sont les passagers qui vont rester appuyés au bastingage. On est encore loin des zones d'intervention des sous-marins allemands, mais on se pose des questions, bien entendu. On s'inquiète, évidemment. Et sur le fond, je pense que les passagers inquiets ont raison. Ils auraient même bien mieux fait de remettre leur traversée à plus tard. Alors en temps normal, un navire comme celui-ci met 5 jours pour traverser l'océan. Mais là, étant donné les économies dont je vous ai parlé, il va mettre 7 jours. À son nouveau rythme, c'est donc le 5e jour qu'il aborde les eaux territoriales britanniques et par conséquent la zone de guerre. On approche des côtes de l'Irlande, le commandant Turner a son visage des mauvais jours. Oh, c'est un vrai loup de mer ce Turner. Et même s'il ne commande pas Lusitania depuis longtemps, son expérience de la navigation est impressionnante. Au physique, comment vous dire ? C'est un homme très grand, toujours calme, voire taciturne, avec les traits tirés, le visage coupe rosé. Je crois qu'on peut dire que lui a de meilleures raisons encore que ses passagers de se ronger les sangs. En effet, 2 heures plus tôt, il a reçu un message de l'amirauté britannique annonçant la présence du sous-marin allemand au large du Fastnet. Le Fastnet, c'est un cap maritime irlandais. Alors, allez dire à un surfeur qu'il évolue au milieu de requins mangeurs d'hommes, vous verrez qu'il aura lui aussi les traits tirés. Évidemment, pour le capitaine, c'est une épouvantable nouvelle. Or, cette nouvelle est confirmée par un second message radio envoyé de Queenstown et qui dit ceci. Sous-marin en opération au large de la côte sud de l'Irlande. Voilà, eh bien débrouillez-vous avec ça. En vérité, Turner est furieux. On lui avait promis qu'un croiseur de la Navy viendrait l'escorter à l'entrée de la zone de guerre. Or, il a beau se présenter exactement à l'endroit indiqué, il a beau réduire son allure au risque de faciliter la tâche des U-boats allemands, il n'a vu personne à l'horizon. Pas plus de croiseurs que de beurre en broche. On peut dire que maintenant, le grand paquebot est à la merci de n'importe quelle torpille.
De Rhapsody in Blue sur Europe 1 de Georges Gershwin. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le Lusitania et son naufrage en 1915.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un paquebot de légende est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le naufrage du Lusitania.
Passerelle du Lusitania, pour le moment, les messages inquiétants continuent d'affluer. Alors, à défaut de mieux, le commandant Turner va prendre quelques mesures d'usage. Il fait débâcher les canots de sauvetage. Il fait vérifier les brassières. Voyez, on ferme de façon hermétique les hublots des ponts inférieurs. Il ordonne même des exercices d'alerte. Enfin bon, bref, les mesures de précaution. D'ailleurs, même si c'est contraire à ses habitudes, Turner s'est adressé personnellement à ses passagers. La harangue a lieu dans le grand salon des premières classes. On a vu ce vieux marin, si droit, si carré, obligé de mentir pour la bonne cause. « Nous n'avons aucune raison particulière de nous inquiéter », a-t-il osé dire. Et il a ajouté « Rassurez-vous, à l'entrée de la zone de guerre, vous serez en sécurité sous la sauvegarde de la Royal Navy ». Parole, parole. Car en entendant, la plupart des passagers ont renoncé à leur cabine. Ils viennent se coucher tout habillés avec des couvertures de fortune sur les banquettes et les canapés des différents salons. Il faut imaginer cette espèce de grand squat sur un navire qui hier encore était la fierté de l'Empire. Le vendredi 7 mai, au petit matin, les gens qui sont là et qui se sont réveillés sur leur fauteuil, il y a des cornes de brume, alors bien entendu, ça fait du bruit. Ils se sont levés tout pâteux, sont allés voir dehors, la météo est désastreuse, il y a en vérité tellement de brouillard qu'on ne voit même plus la mer. Le paquebot donne l'impression d'avancer sur une sorte de nuage, vous voyez. Alors, les passagers regagnent leur cabine pour faire un brin de toilette. Or, avec le jour, même s'il n'y a pas de soleil, on sent bien que l'espoir est en train de renaître à bord. On se dit qu'après tout, si ça a pu aller comme ça pendant la nuit, ça durera peut-être encore un jour entier. À la passerelle, on est nettement moins optimiste. Un message a été capté à l'aube contenant des conseils suivants. Prenez le pilote. Le pilote, c'est un gros remorqueur. Prenez le pilote à la barre de Liverpool, c'est-à-dire dans le canal Saint-Georges. Prenez le pilote à la barre de Liverpool et évitez les promontoires. Passez au large des ports, à grande vitesse. Naviguez bien au milieu du chenal, sous-marin, au large du Fastnet. Ça a été redit, une fois de plus. Et bien entendu, on ne voit toujours pas le croiseur qui devait venir à la rencontre de Lusitania, qui continue d'avancer donc seul et sans défense au milieu de ces brumes que l'on sait maintenant truffées d'ennemis. 11h25, le soleil montre le bout de son nez, mais la radio continue de déverser ses mauvaises ondes, si je puis dire. Sous-marin en action dans la partie sud du canal d'Irlande, que les bâtiments légers s'assurent que le Lusitania a bien reçu le message. Turner maintient une allure réduite, environ 15 nœuds. En effet, il ne veut pas prendre le risque de se trouver immobilisé au large du port dans l'attente de la marée haute. Alors il a bien calculé sa vitesse, c'est très important ces histoires de marée, vous savez, pour les très gros navires. Il a décidé qu'il allait franchir la barre de Liverpool sur les coups de 4h30 le lendemain matin, ce qui est bien. Midi et quart, Lusitania fait cap sur la terre afin de prendre un repère sur le promontoire voisin de Old Head. Retenez bien ce nom, Old Head, il va devenir célèbre. Nouveau message radio à 12h40. Sous-marin à 5 milles au sud de Cap Clear. La menace se précise. Turner serre les dents, il pense à l'Angleterre, si je puis dire. Ce que le brave homme ignore, évidemment, c'est qu'au même moment, dans le cadre de la résidence royale de Kew Gardens, il est question justement de son bâtiment. Or, les personnes qui en parlent ne sont pas les premiers venus, puisqu'il s'agit rien moins que du secrétaire au Foreign Office, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères britannique, et le roi d'Angleterre en personne. En effet, ce 7 mai, les autorités britanniques reçoivent la visite officielle du colonel House, qui est conseiller personnel du président Wilson à la Maison-Blanche. L'Américain rentre de Berlin, où il a fait accepter par les Allemands le projet élaboré par son administration de rétablir la liberté des mers, entendez la levée du blocus contre l'arrêt de la guerre sous-marine. Et tout en marchant à ses côtés dans la roseraie, le ministre anglais des Affaires étrangères, qui s'appelle Sir Edward Grey, surprend son visiteur en lui posant tout à trac la question suivante. Cette question, elle a été posée par le ministre britannique des Affaires étrangères. « Dites-moi, que ferait l'Amérique si un transatlantique transportant des concitoyens américains venait à être coulé par un sous-marin allemand ?» Or, une demi-heure plus tard, le colonel House est encore plus surpris quand le roi George V, en personne, tout en faisant mine de ranger son bureau, lui demande comme ça l'air de rien, de manière très royale. « Et alors dites-moi, quelle serait l'attitude de votre gouvernement si le Lusitania était envoyé par le fond ? » Vous avouerez quand même que ce sont d'étranges questions de la part des plus hauts responsables britanniques. On y soit qui mal y pense. À 14h15, très exactement ce jour-là, le grand paquebot est donc au large de Old Head Kinsale, on est sur la côte sud de l'Irlande. À bord, un fameux décorateur de théâtre est en train d'observer la mer quand soudain, un sillage clair, plein de bulles, lui paraît se diriger droit sur lui. Une dame à ses côtés demande « Mais ce n'est pas une torpille, dites !» Près de l'étrave, un jeune matelot est déjà en train d'hurler « Torpille à tribord !» L'impact se produit juste à l'aplomb de la passerelle. Les passagers ressentent une secousse forte avec une détonation sourde. Plusieurs survivants évoqueront le bruit d'une porte qui claquerait sous l'effet du vent. Et puis quelques instants plus tard, une nouvelle explosion, plus forte que la première, va projeter de gros débris à travers plusieurs ponts. Le commandant Turner accuse le coup. En même temps, il se dit qu'un bâtiment de 30 000 tonnes doit quand même pouvoir résister à ce genre d'attaque. Il met bien sûr cap sur la terre. Seulement, la deuxième explosion, celle qui a été si puissante, provoque tout de suite une forte gîte à tribord. C'est-à-dire que si vous voulez, le navire penche du côté droit. Avec un affaissement sensible de la proue, la marche à suivre dans ce genre de cas, c'est de faire machine arrière toute. Seulement le navire allait sur son air et relancé tout de suite en arrière, s'est forcé à mort sur la machine. Les canalisations de vapeur ne le supportent pas. Plusieurs vont éclater. Une fumée blanche envahit à ce moment-là les ponts. Turner se ravise aussitôt. Machine avant toute! Ah oui, mais sauf que cette fois, ça répond vraiment mollement. Très vite, le navire demeure inerte. Il ne veut plus rien savoir. C'est une grande masse en inertie. Cette fois, c'est bientôt la fin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et nous attendons vos questions, vos messages, vos réactions, chers auditeurs, par mail sur notre site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire à bord du RMS Lusitania. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler du naufrage du paquebot légendaire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un géant des mers est au cœur de l'histoire. Vous relatez, Franck Ferrand, le naufrage du paquebot, le Lusitania, le 7 mai 1915.
Les chaufferies 1 et 2 ont pris le choc. Les mécaniciens sont les premières victimes. Il y a des voies d'eau monstrueuses, hein, faut imaginer ce que c'est. Il y a des hommes qui tentent de s'échapper par les conduits d'aération. Ils sont rattrapés par l'eau dans la cale. Il fait nuit noire. Les dynamos sont hors service. Vous imaginez, c'est vraiment l'horreur, bien entendu. Alors on met les premiers canots à flot, bien entendu. Seulement la bande est très forte. C'est-à-dire que le navire penche beaucoup trop, si vous voulez. Les canots du côté tribord pendent dans le vide, alors que de l'autre côté, au contraire, ils frottent sur la carène. Vous voyez, donc c'est très très difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont périr de cette manière, d'ailleurs. À 700 mètres du naufrage, l'objectif d'un périscope observe le désastre. Car évidemment, il y a le capitaine de corvette Walter Schwieger, qui est allemand et qui vient de donner l'ordre d'envoyer une torpille. Il n'a que 33 ans, ce Schwieger. Vous imaginez un grand Allemand aux yeux bleus, hein, tout à fait, j'allais dire presque un peu la caricature. Quand il a donné l'ordre de tirer sur le vapeur, il était loin de penser qu'il s'agissait du Lusitania en personne. Et alors il est sidéré parce qu'il voit, il dicte ses commentaires. Une grande confusion règne à bord, dicte-t-il à son secrétaire. On dégage les canaux et on met une partie à l'eau. On en met une partie à l'eau. Au cours de cette opération, les gens de bord ont dû perdre la tête. À plusieurs reprises, les palans n'étant pas fixés également, les embarcations remplies de monde sont précipitées à la mer et coulent immédiatement. Incroyable, cette administration allemande où tout est noté. Et ça, c'est très utile, ça, pour les historiens, bien entendu. On sent un certain malaise dans les observations du capitaine Schwieger. 14h25, comme il m'apparaît que le bâtiment n'en a plus pour longtemps à rester à flot, je plonge 24 mètres et pique au large. Je n'aurais pas pu tirer une seconde torpille dans cette foule de personnes qui cherchaient à se sauver. Très intéressant, il n'a bien tiré, encore une fois, qu'une torpille. Et rappelez-vous, il y a eu deux explosions, dont une seconde beaucoup plus forte que la première. Il dira plus tard, ce fut la vision la plus atroce de ma vie, je ne pouvais porter aucun secours, j'aurais pu sauver à peine une poignée de gens, le spectacle était vraiment trop affreux à voir, alors nous avons préféré plonger et nous éloigner. Voilà ce que dit le sous-marin allemand, enfin le capitaine du sous-marin. Il est 14h30 quand l'étrave, hein, c'est-à-dire le nez, si vous voulez, du paquebot va heurter le fond à 100 mètres sous l'eau là-bas. C'est-à-dire que tout a été vraiment très vite, hein, beaucoup, beaucoup plus vite que le Titanic. Si vous avez vu le film, hein, ça n'en finit pas de finir, si je puis dire. Là, ça a été très rapide. Pourquoi d'ailleurs cette rapidité? Ce qui est certain, c'est que sur 1959 personnes embarquées, on va relever 1198 morts. À 14h30, le roi des océans a sombré. Alors c'est dans un gémissement, vous savez, les témoins, les rescapés ont dit, ça fait quand le navire coule vraiment, et on entend une sorte de très grand gémissement. On a vécu exactement la même chose avec Titanic. Ce nez qu'un cri d'indignation, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe, dans le monde entier, même à la chancellerie berlinoise, on est bien embarrassé par cette histoire, on s'en serait bien passé de cette affaire. Et les Américains, plus tard, lorsqu'ils entreront en guerre, 2 ans plus tard, feront imprimer, vous savez, ces fameuses affiches « Remember Lusitania », « Souvenez-vous du Lusitania ». En Angleterre, des commissions d'enquête ont été constituées et très vite, bien sûr, on désigne comme responsable et comme unique coupable l'agresseur allemand. Ça, c'est une évidence. Simplement, il y a un premier, on va dire, un esprit un peu plus percutant. C'est le prédécesseur du commandant Turner, il s'appelait Doe, qui va le premier poser un certain nombre de questions. D'abord, il proteste contre les économies qui ont été faites sur les chaudières, qui fait que le navire était trop lent. Et puis surtout, il s'intéresse à l'absence d'escorte militaire, alors qu'elle avait été promise, et à la cargaison. Que pouvait bien transporter Lusitania? Et c'est là qu'en faisant une enquête, on va se rendre compte qu'il y avait quand même quelques 189 caisses de matériel militaire en pièces détachées, auxquelles il fallait ajouter, tenez-vous bien, 5468 caisses de cartouches, obus et fusées. Ça, c'est le scandale. Parce que ces fusées, elles étaient entreposées juste à l'aplomb de la passerelle. Et encore une fois, nous étions sur un navire de transport de personnes, hein, bien entendu, hein, c'est un paquebot. Et un paquebot qui transportait énormément d'explosifs. Et rappelez-vous, il y a bien eu deux chocs. Il y a eu le premier choc, c'est le petit choc, si je puis dire, de la torpille. Sur un monstre pareil, il n'aurait dû causer que des dommages d'ordre secondaire. Or, le deuxième choc, c'est l'explosion de cette fantastique cargaison militaire qui, elle, a causé sans doute des trous mais considérables dans la coque et justifié, expliqué la chute tellement rapide de ce navire qui va sombrer comme ça en quelques minutes. C'est bien là la question. 1. Pourquoi ce navire transportait-il du matériel militaire? 2. Pourquoi l'a-t-on caché? 3. Est-ce que les Anglais étaient véritablement au courant? Si oui, pour quelle raison? Vous voyez que j'ai énormément de questions à poser à Claude Mossé.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Cette année marque le centenaire du naufrage du paquebot anglais, le Lusitania. Vous recevez, Franck Ferrand, l'historien Claude Mossé, auteur du livre Lusitania, le grand roman d'un mystérieux naufrage paru aux éditions Fayard.
Et c'est véritablement un roman avec beaucoup de souffle que nous offre Claude Mossé. On a l'impression d'y être, si je puis dire. Bonjour Claude Mossé, merci beaucoup.
Oui, il y a toujours en moi... un peu du reporter qui sommeille.
Exactement.
C'est un reportage dans le passé.
Mais et l'âme du conteur.
Oui, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Oserais-je vous dire que je ne suis pas d'accord avec tout. Cela étant, la première question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est pourquoi, comme vous le rappeliez très justement, le Titanic est connu universellement, qui a mis 3 heures avant de sombrer. Alors que le Lusitania, ça n'est que 3 ans après, qui était plus somptueux, plus luxueux, il était de la compagnie opposée, hein, il était de la Cunard et le Titanic était de la White Star. Mais pourquoi, quand vous posez la question dans la rue simplement, vous connaissez le Lusitania, les gens généralement ne connaissent pas ou ont une vague idée. Or, il s'agit d'une des plus importantes catastrophes de la Première Guerre mondiale, et vous rappeliez tout à l'heure qu'on était un peu au-delà du 7 mai, j'ai été surpris de voir que le 7 mai, même à Cobb, qui s'appelait en 1915 Queenstown, parce que la reine Victoria y était venue, eh bien à Cobb, il ne s'est rien passé. Les Anglais...
Ils se sont bien gardés, mais oui.
Depuis 1915, les Anglais, et ils ont sans doute de bonnes raisons, font le silence le plus total, ils ont la mémoire courte sur le, moi je ne dirais pas le naufrage, je dirais le torpillage du Lusitania. Car, et vous l'avez signalé, juste une petite chose, le commandant Schweiger qui notait tout, comme font souvent les Allemands, comme ils l'ont fait hélas beaucoup plus tard avec les camps de concentration, le commandant Schweiger dans tous ses témoignages a bien précisé qu'il avait lancé une torpille et qui plus est une petite torpille car il en avait 3. Et les 2 grosses, il les avait lancées la veille sur 2 navires, dont un navire commercial scandinave d'ailleurs. Donc, pourquoi ce silence? C'est la première question qu'on peut se poser.
Il faut dire que Walter Schwieger est le premier surpris de l'effet de sa petite torpille. D'abord, on était dans un brouillard total, donc il navigue aux instruments. Il envoie cette entre guillemets, petite torpille sur un monstre, hein, sur cet énorme paquebot, et ça aurait pu endommager le paquebot, au pire, et voilà ce qu'il a. Il voit simplement un navire couler sous ses yeux avec cette espèce de catastrophe humaine, hein, puisque
1200 passagers, il y avait 1900 à bord, 700 équipages et 1200 passagers, et quant aux Américains, comme alors, vous l'avez signalé, les chiffres varient, mais le chiffre officiel de la liste des passagers établie à New York dit qu'il y en avait 138.
Voilà, bon. Donc, et ça c'est très important pour des raisons politiques, on y viendra tout à l'heure. Alors, avant de venir aux responsabilités et aux questions politiques, venons peut-être aux affaires purement matérielles. Comment expliquer qu'il y a ces 2 explosions?
Alors, on s'est longtemps posé la question. Et il faudra attendre 1937
Donc très tard, 20 ans plus tard.
20 ans plus tard.
22 ans.
Pour que on ait un aperçu de ce qu'a dû être la réalité. Car évidemment, comme vous l'avez signalé, il y a eu une enquête qui a été diligentée immédiatement. Et cette enquête a été confiée à un homme qui avait déjà enquêté d'ailleurs sur le Titanic. Et moi, la question que je pose, la question qu'on peut se poser, comment se fait-il que dans son rapport d'enquête, nulle part, il n'est signalé que les cadavres que la mer rejette, et ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que les cadavres rejetés sur la côte escarpée d'Irlande, pas très loin de Cobb, que ces cadavres portent tous des marques de brûlure.
Brûlure.
Or, ils n'étaient pas tous à la proue du navire quand la torpille est venue, et puis une torpille, ça ne brûle pas. Donc, il y avait autre chose. Et cette autre chose, on a beaucoup enquêté, et moi, j'ai voulu enquêter parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on parle du Titanic aussi universellement et qu'on ne parle pas du Lusitania. Il y a quelque chose qu'on veut, nous, ou qu'on nous a, et qu'on veut encore aujourd'hui nous cacher. Peut-être une précision, si vous le permettez, très rapide, c'est que un accord entre les puissances belligérantes signalait que les navires de passagers ne devaient pas être touchés par les sous-marins ou les
d'où l'embarras, du haut état-major allemand.
Oui, mais ce qu'on a appris très vite quand même, et ça nous met déjà un petit peu sur des traces politiques, c'est que sur ce Lusitania censé transporter des passagers, et uniquement des passagers, il y avait quand même 12 canons de 381. Et moi, je pose la question, je ne réponds pas. Pourquoi, 6 mois avant le naufrage, la guerre était déjà commencée, mais elle tournait assez mal, pourquoi 6 mois, l'amirauté, le premier lord de l'amirauté, pourquoi l'amirauté a fait blinder la coque du Lusitania? C'est donc qu'on se disait, on pourrait éventuellement transformer ce paquebot de passagers en navire de guerre. C'est d'ailleurs ce que voulaient faire les Français.
Pour ne pas dire en bombe humaine, parce que c'est ça la grande question.
En bombe.
Alors, il y a eu deux grands événements militaires, là, pour ne parler que d'affaires d'amirauté. C'est d'une part l'absence d'escorte à ce navire, c'est-à-dire qu'on avait promis à ce navire qu'un croiseur viendrait à sa rencontre et l'escorterait. Le Juno, on ne l'a jamais vu.
Il est resté en rade de Cobb sans bouger.
C'est incroyable quand même. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui s'est passé?
On le saura peut-être en allant un peu plus avant dans notre enquête. mais on peut avoir des idées. Non, ce qui est certain, c'est qu'on aurait dû escorter ce navire. D'autant plus que les passagers qui avaient effectivement, comme vous l'avez rappelé, avaient été pour la plupart prévenus
du risque
parce que l'ambassade allemande elle avait fait son boulot, elle avait reçu un message de Berlin puisque l'amiral von Tirpitz était au courant était au courant et il est évident qu'on pouvait avoir conscience que le risque il existait bel et bien. Donc il y a des questions qu'on doit se poser. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas fait allusion et qui me paraît importante, c'est que le bateau appartient à la Cunard. Les ordres, le capitaine Turner, qui, vous l'avez rappelé, n'est pas franchement un rigolo, le commandant Turner, a été quand même surpris de recevoir l'ordre de suivre les côtes irlandaises, c'est-à-dire de se détourner de sa route habituelle, de son armateur, la Cunard, mais directement de l'amirauté, c'est-à-dire du gouvernement. Alors Turner, ça l'a quand même interpellé.
Que ce soit son propriétaire, son patron, si je puis dire, qui lui donne l'ordre, c'est directement le gouvernement britannique. C'est quand même étrange, ça.
C'est étrange.
Et là, ça pose la question d'un certain nombre de hauts responsables britanniques. Il y a un nom qui n'a pas encore été prononcé dans cette émission, mais qui revient dans votre ouvrage. Ce nom, c'est celui d'un certain Winston Churchill. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
paquebot transatlantique britannique, le Lusitania et son torpillage sont au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, l'historien et grand reporter de radio et de la télévision Claude Mossé, auteur du livre Lusitania, le grand roman d'un mystérieux naufrage paru chez Fayard.
Évidemment, Claude Mossé, nous allons revenir sur le cas de Churchill, sur son rôle. N'oublions pas qu'à l'époque, il est premier lord de l'amirauté, hein, c'est le patron de la marine britannique. Mais avant Churchill, revenons peut-être deux secondes à l'amiral Tirpitz, qui se trouve lui donc à Berlin, qui dirige l'amirauté allemande, et qui va donner lui l'ordre à ce sous-marin de se dérouter quand même. C'est intéressant.
Oui, c'est une des nombreuses questions auxquelles j'aurais aimé pouvoir apporter des réponses définitives. Voilà un sous-marin, comme vous l'avez rappelé, il n'avait pas énormément encore en 1915. Voilà un sous-marin qui est chargé de surveiller les côtes norvégiennes, parce qu'en face il y a les Russes, qui sont à l'époque alliés des Anglais et des Français, et la marine russe est très bien équipée. Et Tirpitz, qui n'est pas le dernier né, fait surveiller les côtes norvégiennes, comme d'ailleurs
toute la Baltique, d'une façon générale, oui.
Toute la Baltique. Et tout d'un coup, Schweiger, qui est un officier solide, robuste, reçoit l'ordre de rejoindre les côtes d'Irlande. Et Schweiger, il se pose la question, d'ailleurs dans son journal, c'est une des questions qu'il se posera, il dira, je me suis dit, mais pourquoi m'envoie-t-on sur les côtes irlandaises? Ça ne peut pas être dû au hasard. Alors qui est responsable de ce hasard? Et pourquoi Tirpitz a envoyé le U-20 au large des côtes irlandaises? Et pourquoi, comme vous l'avez rappelé, alors qu'il y avait de la brume, la première torpille a touché la proue directement du Lusitania? Ça fait beaucoup de questions. Et pourquoi on connaissait sa position exacte au degré près?
Il y a ce témoignage absolument extraordinaire du secrétaire général de la présidence américaine, hein, donc de ce colonel House, qui est reçu par le roi d'Angleterre et par le ministre des Affaires étrangères, et qui, avant la catastrophe, il faut bien le préciser ça, avant la catastrophe, note dans son carnet que l'un comme l'autre lui ont posé des questions sur les incidences éventuelles du torpillage d'un grand paquebot sur lequel se trouveraient des compatriotes américains. C'est quand même...
Alors qu'il y a cet accord selon lequel, au terme duquel on ne doit pas toucher à des paquebots de passagers. C'est assez incompréhensible. Il y a beaucoup de questions auxquelles... On ne peut pas apporter de réponse.
Quels sont les liens de Churchill avec la Cunard?
Là, vous touchez au point faible. Ça m'a passionné et j'ai cherché. Tout le monde sait que Churchill est descendant des ducs de Marlborough. Le patron de la Cunard en 1915, c'est Lord Inverclyde, qui est un petit cousin par alliance de la famille, non pas de Churchill, mais de son épouse Clémentine. Et les deux hommes entretiennent des relations extrêmement suivies, voire amicales. Alors, moi, la question que je pose, c'est est-ce que Lord Inverclyde, qui a la liste de tous les passagers qui traversent l'Atlantique, y compris pour cette traversée, parce qu'il y a, comme vous l'avez rappelé, Vanderbilt, qui est un personnage très important et qui vient pour aménager le réseau ferré britannique. Eh bien, il a la liste des passagers, il téléphone à son petit camarade Churchill et il lui dit « Ça vous intéresse ? Dans la prochaine traversée, il y a une centaine d'Américains à bord, ça pourrait vous être utile. »
Mais utile de quel point de vue ?
Utile parce que Churchill, on revient un peu en arrière, a fait la guerre des bourgs, où il a été fait prisonnier d'ailleurs, puis relâché. Et l'officier avec lequel il travaillait est venu le trouver à l'amirauté et lui a dit cette phrase sibylline, en buvant un whisky et en fumant le sixième cigare de la journée, ou le dixième, « Mon cher Winston, si vous voulez qu'on gagne la guerre, il faut se servir de la ruse. » Et ça n'est pas tombé, me semble-t-il, dans l'oreille d'un sourd.
Nous sommes bien d'accord, Claude Mossé. Là, nous ne sommes plus dans l'histoire, nous sommes quasiment dans le roman historique. C'est-à-dire que c'est une conjecture, c'est une hypothèse que vous formulez, hein, bien sûr. Mais c'est une hypothèse en faveur de laquelle s'accumulent les arguments, il faut bien le reconnaître. Churchill ne va pas rester longtemps en poste après ça, d'ailleurs.
Hein. Non, il va démissionner parce que, on saura, mais plus tard, qu'il y avait des munitions à bord du Lusitania. Or, et c'est la question à laquelle on ne peut pas apporter de réponse, est-ce que Turner, auquel on a dit que c'était du corned beef savait que c'était des munitions ou est-ce qu'il ne le savait pas? Je pense qu'on peut considérer qu'il le savait. Mais, si vous voulez, ce voyage était au départ un voyage à risque. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez rappelé, l'ambassade d'Allemagne à Washington a dit à un certain nombre de gens avec lesquels il travaillait attention, parce qu'il pourrait y avoir des dégâts avec ce bateau qui était devenu quand même un navire de guerre. Alors la question qui se pose, et à laquelle on va essayer de répondre dans les quelques minutes qui nous restent, c'est comment Tirpitz était-il au courant de ce que le Lusitania n'emprunterait pas sa route habituelle et de ce que si l'on envoyait...
Il ne serait pas protégé.
Il ne serait pas protégé par le Juno qui était resté à Cobb, enfin à Queenstown, et qu'il passerait au large des côtes à 14h15 GMT dans la brume. Ça, moi, je veux bien qu'on croie au hasard, mais pas là.
Ouais. Pas là. Il faut reconnaître qu'il y a un grand nombre de coïncidences assez désastreuses dans cette affaire,
oui,
incontestablement.
Ce que je voulais vous dire, c'était Wilson, qui était un démocrate et qui n'aimait pas beaucoup Churchill, qui avait quitté le Parti conservateur pour le Parti libéral.
Wilson, président des États-Unis.
Oui, Wilson, président des États-Unis, avait accepté de livrer des munitions. C'est lui qui avait... traité avec un trafiquant d'armes, comme il y en avait déjà beaucoup, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui, la facture, par quel hasard, et cette facture on l'a retrouvée dans les archives, la facture a été envoyée au 10 Downing Street. Le Premier ministre, Lord Asquith,
oui,
convoque immédiatement Churchill, après la tragédie, convoque Churchill et lui dit « Mais oh !» Il y avait des munitions à bord. Vous étiez au courant, vous qui êtes premier lord de l'amirauté? Et Churchill, d'après ce qu'on a pu lire, aurait répondu « Oui, je vais démissionner ». Et il a été démissionné. Et il ne reviendra que plusieurs mois plus tard, et pas comme premier lord de l'amirauté. Donc, oui, Churchill est une icône du XXe siècle. Seulement,
pour de toutes autres raisons,
oui,
dans de toutes autres circonstances.
Oui. Mais si vous voulez, rapidement, un rapprochement. Winston Churchill ne pensait pas qu'il y aurait autant de morts, car on n'a pas encore parlé de la deuxième explosion. On va le faire très rapidement.
Mais là, ça va être difficile, oui.
Oui, on va dire en deux mots. Mais souvenez-vous, en juillet 40, qu'est-ce qu'il a fait, Winston Churchill? Il a fait Merselkébir, où il a fait détruire la flotte française, qui était une flotte alliée. Donc, pour moi, Winston Churchill est un grand patriote, mais doublé d'un énorme cynisme. Et je pense que
c'est ce qu'on appelle un grand politique, tout simplement.
Oui, peut-être, c'en est un grand politique. Et je pense qu'il espérait, avec ce naufrage, il espérait que les Américains entreraient en guerre, ce qu'ils n'ont pas fait, mais reste le mystère de la deuxième explosion.
Ils y sont venus quand même plus tard,
bien
entendu. Oui, deux ans plus tard.
Deux ans plus tard. Alors, la deuxième explosion, là, il y a plusieurs thèses. Mais je crois que celle qu'a développée Schweiger et un journaliste américain du Chicago News est peut-être, je dis bien, est peut-être la bonne. C'est que il y avait les soutes à charbon étaient pleines de charbon. Or, vous savez que quand il y a du charbon et qu'une poche d'air se crée, il y a une explosion, il y a un coup de grisou. Et il ne m'étonnerait pas que cette fameuse deuxième explosion ait été imprévu, que c'était un coup de grisou, ce qui expliquerait, d'une part, le naufrage en 18 minutes.
Très rapide.
Très rapide. Et surtout, le fait qu'il y ait eu, sur les rescapés et sur les naufragés,
des traces de brûlure.
Des traces de brûlure.
Et voilà. Tout a l'air effectivement de rentrer dans l'ordre dès lors qu'on a un autre éclairage. Alors, je me rends compte, Claude Mossé, que nous n'avons pas parlé des passagers clandestins. Et Dieu sait qu'il y en avait à bord.
Alors, la question se pose, et ni vous ni moi ne pouvons apporter une réponse. Il y avait des passagers clandestins. Vous savez comme moi qu'on ne monte pas sur un bateau dans le port de New York sans fournir un certain nombre de papiers. Qui étaient ces passagers clandestins? Comment sont-ils montés à bord?
Et avec quelle complicité?
Et avec quelle complicité, la question reste posée. Je crois que sur le Lusitania, nous aurons l'occasion de nous revoir.
Mais oui, parce qu'il y a aussi la question de l'or qui était, semble-t-il, à bord. Oui. La question de l'épave aussi, cette épave.
Un mot, une phrase. En 1967, un homme d'affaires américain, Greg Venice, a acheté l'épave qu'on n'avait pas le droit d'aller visiter auparavant.
50 ans plus tard.
Il a acheté l'épave, convaincu qu'il y avait de l'or. La première plongée sur l'épave qui gît par 90 mètres de fond a eu lieu en 1972 par Rappard, celui qui avait d'ailleurs qui a exploré le Titanic. Il n'a pas trouvé d'or et il n'a même pas été en mesure de dire dans quel état se trouvait le Lusitania. C'est vous dire à quel point ça a été une tragédie terrible et c'est à vous dire, c'est-à-dire à quel point on peut s'interroger pourquoi parle-t-on tant du Titanic et si peu du Lusitania.
Le grand roman d'un mystérieux naufrage, Lusitania de Claude Mossé, est publié chez Fayard. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Vous répondez Franck Ferrand à la question de Stéphane aujourd'hui. Il vous demande via la page Facebook de l'émission l'origine du terme sage-femme.
Alors je vais répondre à Stéphane dans un instant. Simplement, pour ne pas oublier, parce que vous me connaissez, hein, si
oui.
Donc si je ne le fais pas maintenant, je vais oublier. Et c'est important de vous signaler qu'on va parler d'histoire d'une certaine radio ce soir à la télévision. C'est sur France 5 à 22h10, un documentaire sur les 60 ans de notre chère maison. Ça s'appelle Europe 1, une radio dans l'histoire, un documentaire de Pascal Fornery. Ce soir sur France 5, donc à 22h10. Voilà qui est dit. Alors pour cette affaire de sage-femme. Vous savez que pendant très longtemps, quasiment de tout temps, c'est une profession, ce travail d'accoucheuse qui était une profession féminine. Ça n'enlevait rien, évidemment, à la présence d'un certain nombre de médecins accoucheurs qui vont se développer, notamment au milieu du Moyen-Âge. Mais en tout cas, c'était une profession féminine. Il y avait cette femme qui souvent travaillait pour tout un village ou tout un quartier et qui venait aider les parturientes, aider les femmes à accoucher. À partir du XIVe siècle, c'est du reste une profession réglementée. Il fallait passer une sorte d'examen auprès d'autres matrones, d'autres sages-femmes expérimentées. Pourquoi sage-femme? Ben sage, ça vient de sapiens, sapere, savoir en latin. Ce sage, autrefois, ça voulait dire qui connaît, qui dispose d'un savoir et notamment d'un savoir-faire. C'était l'expert, si vous voulez. C'est à partir de 1212 que l'emploi de cette locution sage-femme est attesté et cet emploi va se répandre à partir du XIIIe et XIVe siècle. Là, on parle partout de sage-femme. On disait aussi de sage-mère à l'époque. Alors, va se poser une question, c'est à partir du moment où on ouvre la profession aux hommes, bien entendu, et il y en a de plus en plus depuis le milieu des années 1980, depuis 85, la profession est officiellement ouverte aux hommes. Alors là, comment est-ce qu'on va les appeler, des sages-hommes ou des hommes sages-femmes? Enfin bon, ça c'est un problème. Donc pour l'instant, la question n'a pas été véritablement tranchée. Tout de même, l'Académie française a donné son avis sur la question et il faudrait appeler l'homme sage-femme, il faudrait l'appeler le maïeuticien. Ça vient du grec maïeutiké, l'art de la maïeutique, après tout, c'est l'art de l'accouchement. Alors bon, des maïeuticiens, des maïeuticiennes, moi je préfère encore dire des sages-femmes, tout simplement. Pour une fois qu'une profession est au féminin, conservons-la.